Voici l'entrevue
Radio de la Paix.
Alors que les États-Unis se préparent pour de nouvelles échéances électorales majeures, les regards du monde entier se tournent vers ce pays où chaque scrutin peut redéfinir les équilibres politiques et économiques internationaux. Dans ce contexte, comprendre les enjeux et l'environnement de ces élections devient essentiel pour saisir les tendances globales qui en découleront. Pour nous éclairer, nous avons le plaisir d'accueillir Palais Dimaté, expert en relations internationales et spécialiste de la politique étrangère américaine, qui nous livre son analyse sur les défis et perspectives de ces élections.
Junior Cardin.
Monsieur Palais Dimaté, bonjour.
Bonjour, Junior.
Dans un premier temps, Monsieur Palais Dimaté, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement le contexte politique actuel aux États-Unis?
Merci. Je crois que je vais d'abord vous faire un flashback pour nous replonger dans l'histoire. Pour parler d'abord de la Convention, ce sont des élections régulières. Conformément à la Constitution américaine de 1787, les élections américaines se tiennent chaque 4 ans pour les présidentielles, chaque 2 ans pour les représentants, ce que nous appelons aussi les députés, et un tiers des sénateurs. Ils sont élus, c'est-à-dire à peu près 33, chaque 2 ans également. Mais je dis que les sénateurs sont élus pour 6 ans. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'après chaque 4 ans, le premier mardi de novembre est consacré aux élections générales. Alors, donc, le contexte actuel, c'est que tout le personnel politique des États-Unis est arrivé à terme, doit être renouvelé. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas que les élections présidentielles, mais il y a aussi les élections des députés, des sénateurs, et même dans les counties, les comtés, etc., dans les États. En tout cas, il y a plusieurs élections à la fois ce mardi-là.
Et en pareille circonstance, nul doute qu'il y a de grands thèmes qui dominent ces élections.
Oui, vous savez qu'aux États-Unis, c'est le projet de société qui prime. Qu'est-ce que le candidat doit faire s'il est élu, etc. Pour le moment, il y a 3 grands thèmes. Au niveau de développement économique, il y a plusieurs échelons. Chacun a son projet de société. Mais ce qui domine actuellement et qui peut basculer certains électeurs, c'est l'immigration, l'avortement et les problèmes de logement et de santé.
Et par rapport à ces grands thèmes, quelles sont les principales différences entre les partis en lice, c'est-à-dire les démocrates et les républicains, en termes de vision et de priorité?
Oui, en termes de vision, les républicains, qui sont en quelque sorte des conservateurs, pensent qu'il faut limiter l'immigration. Vous avez vu, Trump avait commencé, quand il était président, à construire un mur infernal pour empêcher que beaucoup d'immigrés entrent aux États-Unis. Maintenant, en termes de combat aussi, Kamala Harris se bat pour que le texte qui a été dissous par la Cour suprême, relatif bien sûr à l'avortement, qu'on puisse remettre cela pour que les Américains puissent disposer de leur corps sans qu'il y ait des contraintes. Donc voilà deux thèmes déjà, dans une certaine différence de vision dans la Grande Amérique.
Mais quelles sont les stratégies pour se rallier les électeurs face à ces grands thèmes-là?
D'abord, il faut reconnaître que l'Amérique, c'est un pays multiracial. Les groupes de pression s'imbriquent dans les affaires politiques des États-Unis. Donc, il faut pouvoir convaincre ces groupes-là, les Portoricains américains, les Cubains américains, les Grecs américains, les Arabes américains, et surtout les Juifs américains, etc. Donc, chacun peaufine une stratégie et même, je dirais, une tactique en fonction de où il se trouve. Par exemple, vous avez vu que c'est une élection qui semble un peu compliquée cette fois-ci, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas à déterminer le gagnant. En principe, autant d'Obama, on voyait déjà les choses se dessiner. Mais là, c'est une élection où il y aura beaucoup de surprises, parce qu'il y a beaucoup de désistements des gens qui, en fonction des meetings, les candidats vont vers l'électeur. Les candidats vont vers les États hésitants, swing states, les États où aucun parti n'a le monopole. Donc, que ce soit le parti conservateur ou le parti démocrate, chacun a sa chasse gardée. Mais il y a au moins 7 États comme ça. Il faut aller vers là-bas. Et ces États-là ont des grands électeurs. Vous mettrez les 7 pour permettre de faire la différence. Donc, c'est ça qui est en train de marcher actuellement avec les deux partis.
Et la question des grands électeurs et des électeurs, en un mot, comment vous pouvez nous faire comprendre les différentes nuances?
Oui, c'est très important parce que tout ça part de la convention de 1787. À cette convention constituante à Philadelphie, il y a eu beaucoup de débats autour des représentants. Et les gens ont dit que le mot gouverneur rime avec la dictature. Ce que nous avons refusé en Angleterre, là, nous ne voulons pas avoir ceci. Donc, ils ont discuté jusqu'à un moment donné pour qu'ils acceptent de trouver le mot président des États-Unis. Deuxième point d'achoppement, c'est le mort, le scrutin. Le troisième point, qui va élire? Donc, à ce niveau, on a dit, bon, est-ce qu'il faut que tout le monde aille aux élections? Est-ce qu'il faut un suffrage universel? Parce que le suffrage au départ était censitaire et capacitaire. Il faut savoir lire, il faut avoir un peu de moyens. C'était les fermiers blancs qui avaient les moyens qui pouvaient lire. Maintenant, on dit non, nous avons aboli l'esclavage, nous avons aboli un certain nombre de choses et que chacun a le droit de vote. Il faut que ce soit universel. Mais nous ne pouvons pas parcourir toute l'Amérique, 50 États. Donc, il faut trouver une formule. Le débat a duré pendant longtemps. Et ensuite, les premiers ont dit, bon, il faut que le président soit élu par le Congrès. On a dit, mais si le président est élu par le Congrès, alors il va encore être dictateur, c'est le Congrès qui l'élit, donc il n'a pas de problème avec le peuple. Il dit non. Deuxième proposition, non, il faut que ça soit une élection directe. L'Amérique avait 4 millions d'habitants. Mais il n'était pas facile de parcourir les 50 États. Donc, il faut revenir à ce qu'on appelait les grands électeurs. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a deux choses. Premièrement, élection au suffrage universel direct. Tous les Américains qui ont rempli les conditions votent. Quand vous avez fini de voter, maintenant, on va compter le nombre de députés que vous avez dans votre État, plus les sénateurs. 50 États, il y a 2 sénateurs par État. Ça fait 100. Il y a, pour l'heure, 435 députés. Et c'est en fonction de la population. On ne prend pas comme ça. Vous prenez par exemple Californie, il y a 55 grands électeurs. Quand vous prenez par exemple Washington, qui n'est pas un État, mais a droit à 3 grands électeurs. Celui qui a gagné, même si vous avez gagné une voix de plus, mais vous prenez tout. De sorte qu'il y a des petits États où il y a 3, etc.
Donc si je comprends bien, il y a eu un premier vote où on vote les représentants et puis ce sont les représentants qui viennent élire maintenant le président ou bien comment ça se passe?
Non, il y a un premier vote au suffrage universel direct. On vote les candidats. Il y a un comité électoral national, il y a un comité électoral au niveau de chaque État. Dans ce qui va se passer, je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Prenons un État, par exemple. Dans l'État, là, tous ceux qui ont droit, qui remplissent les conditions, votent. À supposer que le démocrate gagne 3000 voix, les républicains gagnent 2099 voix. Mais une seule voix, là, ça veut dire que c'est les démocrates qui ont gagné là. Donc, dans cet État-là, s'il y a, par exemple, 20 députés plus 2 sénateurs, donc ils deviennent ce qu'on appelle les grands électeurs. Donc, tu te retrouves avec les 22. Donc, tout le monde vote dans un premier temps. C'est pour cela que Al Gore avait gagné par le nombre de votants au suffrage universel, mais par le nombre de grands électeurs, George Bush a remporté.
Mais comment se fait la jonction entre le suffrage universel et les grands électeurs? À quel moment?
Oui, dans un premier temps, les grands électeurs n'interviennent pas d'abord. Ce qu'on appelle les grands électeurs, là, on les choisit en fonction du nombre de députés par État. Ouais, ce n'est pas forcément les députés qu'on prend. Hein.
À quel moment, eux, votent les grands électeurs?
Les grands électeurs, après, déjà, quand il a gagné, mais ils vont se retrouver en décembre, janvier, là, pour se réunir encore et puis maintenant voter. Mais bon, ça, c'est un vote de fait.
Donc, quelle est l'importance des grands électeurs dans le vote, alors?
Mais les grands électeurs, là, il y a une importance capitale. C'est les grands électeurs qui déterminent tout. C'est pour cela que les candidats sont obligés de parcourir tous les 50 États. Parce que si tu n'es pas parti là-bas, si tu n'as pas fait de meeting là-bas, et que bon, on ne t'a pas vu, on considère que tu perds en même temps cet État-là. Donc, les grands électeurs déterminent les élections. C'est eux qui font la force des élections. Parce que c'est eux, à la dernière minute, qui se retrouvent pour entraîner le vote du suffrage universel.
Après donc le contexte et la présentation, nous allons aborder maintenant les enjeux. Quels sont les principaux défis économiques auxquels les États-Unis sont confrontés en ce moment? Et comment chaque candidat propose-t-il de les aborder?
Oui, en ce qui concerne les démocrates, par exemple, Kamala Harris met l'accent sur les problèmes de santé. Vous savez, là-bas, il y a le Medicare et puis il y a Obamacare. C'est ce qu'on pourrait appeler ici l'assurance maladie universelle. Donc, elle veut maintenir cela pour que tout Américain, le citoyen lambda américain, puisse se soigner. C'est ça le problème. Quand vous n'avez pas d'assurance aux États-Unis, c'est comme un animal dans la savane. Obama avait donc créé ce qu'on appelait Obamacare. Et Kamala Harris dit qu'elle va mettre l'accent sur ça. Elle va même peut-être améliorer. Ensuite, elle dit, les Américains ont des problèmes de logement. Des gens qui quittent à 50 km, 100 km pour venir travailler à Washington, à New York, etc. Il faut pouvoir mener une politique publique en ce qui concerne le logement pour que tout Américain puisse être à l'aise d'être logé quelque part. Et bien sûr, ce que Biden avait commencé, à savoir qu'il faut refaire les routes, faire un certain nombre de choses au plan économique qu'elle entend améliorer. L'autre, les républicains, Trump dit que ce sont les immigrés qui empêchent les Américains de se développer. Pour que l'Amérique puisse se développer, il faut les évacuer. Il faut limiter, il faut empêcher que ces immigrés-là viennent beaucoup aux États-Unis. Mais comme Trump, je vous ai dit tantôt que c'est dans un groupe d'establishment, c'est-à-dire des hommes riches, c'est la haute classe, etc. Donc, il faut plutôt mettre l'accent sur un certain nombre de développements qui n'impactent pas directement la classe moyenne. Kamala, étant dans la classe moyenne, elle veut faire de sorte que tout ce qu'elle va faire comme développement puisse impacter cette classe moyenne-là. Bon. Donc, voilà où le problème se pose aujourd'hui. Et c'est ça qui fait vaciller beaucoup d'électeurs, etc. va être beaucoup de leaders d'opinion.
Ça veut dire qu'au niveau de la santé, l'accès aux soins, les politiques sont différentes?
Oui, les politiques sont différentes. La preuve, pour Trump, pour les républicains, il faut éviter l'avortement. Il ne faut pas avorter. Et l'autre, les démocrates disent qu'il faut permettre à la femme de disposer de son corps, d'être libre de faire de ce qu'elle veut. Ils ne veulent pas limiter l'avortement. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la santé. Et puis ensuite, Trump avait voulu même annuler l'Obamacare, c'est-à-dire l'assurance maladie universelle. Donc ils ont des visions de développement un peu différentes, des visions antinomiques.
Et au niveau de l'éducation?
Oui, l'éducation, et là aussi c'est un problème parce que la Cour suprême a supprimé la discrimination positive, qu'on appelle affirmative action. Or, la discrimination positive qui avait été donc créée par les démocrates, si j'ai bonne mémoire, permettait aux noirs, aux bas peuples, à la classe moyenne, d'aller dans de bonnes écoles, de faire de bonnes études. Mais la Cour suprême a supprimé la discrimination positive. Donc maintenant, je pense que certainement, si les démocrates viennent au pouvoir, ils vont remettre cette discrimination positive.
Résolvons ici à différents niveaux le problème d'immigration et de racisme.
Oui, on pourrait parler d'immigration, pas tout à fait de racisme, parce que parler de racisme suppose que le racisme existe. Le racisme a été aboli, il y a une certaine égalité, mais le racisme existe et de fait, non pas de droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun test qui interdit à un noir américain ou à un pauvre de ne pas faire telle chose. Mais seulement dans les faits, on le sent. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est un pays multiracial et les gens sont cloîtrés, chacun dans sa race. Et ça fait que bon, il faut contacter tous ceux-là pour pouvoir gagner les élections.
L'entrevue Radio de la Paix.
Je rappelle que nous sommes avec M. Palé Dimaté, ancien député, spécialiste des questions américaines. Et avec lui, nous sommes en train de parler des élections aux États-Unis pour cette année 2024. Et nous permet donc de comprendre les enjeux de ces élections générales. M. Palé Dimaté, maintenant nous allons aborder un autre volet. Il s'agit de la politique étrangère et la défense. Quel est l'enjeu de cette élection pour les relations internationales des États-Unis, en particulier avec des pays comme la Chine et la Russie?
Bon, d'abord, nous pouvons dire dans un premier temps que c'est deux idéologies opposées. Il y a le multilatéralisme contre l'unilatéralisme, quand on voit ce qui se passe. Et si vous avez vu, les démocrates, avec Biden, avaient participé à toutes les activités, à toutes les réunions du G7, de l'OTAN, etc. Or, les républicains, aujourd'hui, certes, veulent s'ouvrir, mais on sent qu'il y a une sorte de réveil de la doctrine morose, ou du moins, les corollaires de la doctrine morose. C'est-à-dire, c'était le cinquième président des États-Unis qui avait donc interdit que l'Europe s'ingère dans les affaires des Américains. Nous sentons que Trump va certainement conduire l'Amérique vers l'unilatéralisme, contrairement à ce que Kamala Harris fait. Mais aujourd'hui, le problème aux États-Unis, c'est qu'au moins, il y a une certaine bipartisanship. C'est-à-dire que lorsque l'Amérique est attaquée, les gens ne voient plus trop le parti. Ils s'entendent pour contrer les autres. Donc, il y a une certaine unité quand il s'agit de s'attaquer à la Chine, la Russie, etc. Donc, quel que soit ce qui va se passer, il y a ce qu'on appelle la destinée manifeste, manifeste destinée. Pour les Américains, l'Amérique est un État à part qui a le devoir et le droit de régner, d'enseigner sa culture, sa démocratie, son modèle de développement. Donc, à partir de ce principe-là, aucun Américain ne peut accepter, parce qu'il n'est pas au pouvoir, que la Chine domine les États-Unis. Donc, quel que soit celui qui sera élu, il ne pourra jamais accepter que la Chine soit au devant. Il y aura toujours la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et d'ailleurs, même les BRICS ont commencé à faire des réunions qu'on pourrait appeler une sorte de guerre froide, qui ne dit pas son nom, parce que lorsque les Américains organisent une réunion avec les Africains, vous voyez aussi la Chine qui organise une réplique qui souvent est symétrique ou parfois asymétrique.
En tout cas, c'est avec plaisir, hein, M. Palé Dimaté, qu'on vous écoute parler avec passion des États-Unis. Et je dirais même, quand on arrive chez vous, les différentes chaînes de télévision américaines défilent sous nos yeux. Vous parlez très bien l'anglais.
Oui, mais je suis diplômé en anglais. En tant que jeune étudiant, d'abord, j'ai fait l'anglais. J'étais professeur d'anglais avant d'aller faire... Même le PhD, je l'ai fait en anglais. Tout ça à l'école des hautes études.
Je comprends pourquoi il n'y a que l'anglais qui passe sur vos différentes chaînes de télévision. Et puis, nous allons poursuivre, M. Palé Dimaté. Les engagements en matière de défense et de sécurité sont souvent des sujets importants. Comment les candidats envisagent-ils la posture militaire et stratégique des États-Unis dans les années à venir, hein, selon le parti, démocrate ou républicain?
Oui, il faut dire que depuis les attentats du 9-11, qu'on appelait du 11 septembre, l'Amérique a adopté une autre posture en matière de stratégie militaire, en matière de conquête du monde. On sent une certaine pentagonisation de la diplomatie américaine. C'est-à-dire que l'armée est au devant. Vous verrez le budget de l'armée dépasse le budget de ce qu'ils appellent State, en quelque sorte le ministère des Affaires étrangères. Il y a ce qu'on appelle en anglais Stretch Forward Militarization of US Foreign Policy. Une militarisation tout azimut de la politique étrangère américaine. Les deux concepts-là sont à prendre au sérieux. La pentagonisation, la militarisation tout azimut de la politique étrangère américaine. Maintenant, à travers le monde, vous verrez des positions, des bases américaines un peu partout. C'est l'Amérique, avec l'avènement des BRICS, qui commence à contester leur hégémonie, veut s'armer et parer à ce qui pourrait arriver après. Et la Chine, la Russie, qui conteste l'hégémonie des Américains, et bien d'autres pays émergents qui pensent que l'Amérique ne peut plus les diriger. Donc l'Amérique, les États-Unis prennent conscience du danger qui les guette. Et donc, avec l'événement, comme je venais de le dire, le 9-11, c'est-à-dire du 11 septembre 2011, les Américains prennent les précautions en militarisant les politiques étrangères, les diplomaties.
Et M. Baldematé, avec les différentes controverses, avec les récentes controverses autour du droit de vote et de l'intégrité électorale, quels changements les candidats souhaitent-ils apporter au système électoral américain?
Oui, il faut dire que depuis 2007, à Boston, nous étions tous là-bas, il y a des voix qui se lèvent pour réclamer le suffrage universel direct. Parce qu'il y a trop de controverses. Il y a, comme je le disais tantôt, que des candidats remportent les élections au niveau du suffrage universel. Mais compte tenu du fait qu'il faut tenir compte des grands électeurs, ces candidats-là les perdent. J'ai pris par exemple l'exemple d'Al Gore, qui avait gagné au niveau du suffrage universel, mais Bush a gagné grâce aux grands électeurs. Donc les voix se lèvent partout, demandent à ce qu'on commence maintenant à adopter le système de suffrage universel où tout le monde vote et qu'en tout cas, à partir du vote de tout le peuple américain, qu'on comptabilise cela et de revenir sur le système des grands électeurs. Aussi, il y a des garde-fous qui sont en train d'être pris parce que depuis l'événement où il y a une insurrection qui a envahi le Congrès pour empêcher que les grands électeurs valident l'élection de Joe Biden, alors il y a aussi des mesures qui sont en train d'être prises pour cela. Le comité électoral national et comme le comité électoral au niveau de chaque État prend certaines mesures. Voilà. Mais le souhait aujourd'hui de beaucoup d'Américains, c'est de déboucher sur le suffrage universel direct.
Cela veut dire que ce qui s'est passé en 2020, c'était pour empêcher les grands électeurs de valider l'élection?
Oui, je vous ai dit tout à l'heure que quand on a fini, les grands électeurs se réunissent après, le mois de décembre et janvier, pour valider l'élection au Congrès. Et c'est lors de cette séance de validation que Trump a envoyé ses partisans envahir le coin. Donc, et ça là, c'était gênant, ça a discrédité un peu la démocratie américaine parce que nous disons tous que l'Amérique est le pays de démocratie par excellence et que ce qui s'est passé, on avait pensé qu'on était en Afrique. Donc ça aussi, c'est gênant. Et les mesures sont prises. La preuve, l'affaire n'est pas encore finie puisque le procès continue. Vous savez, aux États-Unis, on peut t'accuser, mais tant qu'on ne t'a pas encore mis en prison, tu peux être toujours candidat.
Relativement aux implications globales, comment cette élection pourrait-elle affecter l'Afrique, notamment en matière de coopération, de politique d'immigration ou de développement économique?
Oui, quand on regarde les campagnes, quand on regarde ce qui est en train de se passer entre les républicains et les démocrates, c'est une guerre entre le multilatéralisme et l'unilatéralisme. Le multilatéralisme permet aux Américains de s'ouvrir à tout le monde et de travailler dans le cadre onusien. Et là, de s'intéresser à l'Afrique, etc. Il y a ce qu'on appelait l'AGOA, Growth and Opportunity Act, qui est un mécanisme par lequel les Américains aident l'Afrique à se développer. Bien sûr, il y a des conditionnalités, mais l'Amérique a toujours voulu aider notre continent. Mais comme notre continent fait 14% des terres émergées, a des potentialités économiques, cette Afrique-là attire les grands bailleurs de fonds, attire les Américains, attire l'Occident, mais son instabilité inquiète. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez des États émiettés, des États divisés, des États fragmentés. Alors, pour ce faire, je pense que, quel que soit celui qui va gagner, personne ne peut mener une vie hermétique aujourd'hui dans le monde. Peut-être que les conditionnalités seront même corsées et ça peut poser problème. Donc, il faut que nous commençons par nous-mêmes. Vous voyez aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest avec des organisations, l'AES et puis la CDAO, etc. Les problèmes en Éthiopie, les problèmes au Sud-Soudan, et tout ça, ce sont des problèmes qui inquiètent les bailleurs de fonds. Mais l'Amérique ne peut pas oublier l'Afrique, quel que soit celui qui aura gagné.
J'allais dire enfin, M. Palé-Dimaté, quel message cette élection envoie-t-elle au reste du monde et pourquoi cette élection est-elle si suivie à l'international?
D'abord parce que l'Amérique, au plan culturel, au plan politique, au plan économique, est un grand pays. À l'ONU, vous savez, l'Amérique contribue beaucoup. Au plan militaire, c'est un État qui compte. Deuxièmement, tout part des États-Unis. Vous verrez, par exemple, que celui qui sera élu, et s'il n'est pas pour le multilatéralisme, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être bloquées. La preuve, quand Trump était là, il a remis en cause la COP21 de Paris. Il a refusé l'accord que Obama avait signé avec les Cubains, etc. Donc, l'issue de cette élection inquiète aussi l'Occident, parce que Biden a prouvé qu'il était avec l'Occident, l'OTAN. Or, Trump dit qu'il va peut-être mettre fin à la participation à l'OTAN, parce que ce sont les États-Unis. D'abord, tout le monde est impressionné par le jeu démocratique, par la grandeur des États-Unis, mais les uns et les autres aussi sont inquiétés par le résultat, parce que ce n'est pas un résultat qui va dans le sens de ce que l'Occident aimerait, la communauté internationale occidentale, ça va poser un certain nombre de problèmes, il y aura des blocages, tout ce qui a été décidé autant de Biden peut être freiné par celui qui va venir et tout ça. Et même l'Asie, tout ça, avec les grandes monarchies asiatiques, tout ça, chacun à son niveau craint un peu ce qui va se passer. Et puis ensuite, le problème Palestine-Israël, tout ça, il faut dire que l'Amérique n'a pas de responsabilité. Il faut que l'Amérique puisse accepter de régler ce problème-là. L'Amérique pèse beaucoup dans l'Équateur. Quand je parle d'Équateur, c'est l'ONU, l'Union européenne, la Russie et les États-Unis. Voilà l'Équateur. Et c'est pour cela que c'est une élection importante. Troisième élément, c'est que c'est une leçon pour la communauté internationale, pour le monde entier, parce que là, on voit des débats. Et puis, jusqu'à présent, on n'a pas emprisonné quelqu'un. On n'a pas empêché quelqu'un d'être candidat. Quand bien même que Trump soit inculpé, on n'a pas été empêché. Donc, vous voyez la démocratie, l'opposant n'a pas été tué. Chacun vient, il parle et dit ce qu'il pense. Voilà, vous voyez une certaine liberté de parole, de pensée. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie tout azimut.
La guerre en Ukraine aussi. Hein.
Voilà. Oui, la guerre en Ukraine. Tout ça, c'est pour cela que c'est un élément important dans ces élections-là. Parce qu'il y a Israël, la guerre en Ukraine, ces deux éléments-là, et puis l'OTAN. Il faut que celui qui vient qu'il puisse continuer d'aider à résoudre la guerre en Ukraine.
M. Palé-Dimaté, la place des sondages dans les élections aux États-Unis.
Oui, les sondages, ce sont des éléments très importants qui permettent aux candidats de savoir, de se mesurer, de voir à quel point ils s'y trouvent. Cette fois-ci, dès qu'on a commencé, je vous ai dit qu'en tout cas, ces élections-là sont un peu compliquées pour cette année-là, parce que les deux candidats sont coude à coude. Et puis, deuxième problème, les États hésitants mélangent tout. Troisième problème, il y a des désistements, parce qu'il y a des chasses gardées. Et dans ces chasses gardées-là, il y a des ténors. Je prends par exemple, au niveau des démocrates, Californie, c'est un État qui vote la majorité les démocrates. Mais le richissime américain de Silicon Valley, qui après le débat entre Biden et Trump, dit qu'il a basculé pour Trump. En même temps, la famille Cheney, sa fille Liz Cheney, dit qu'elle regrette d'avoir voté Trump une fois. Donc, au niveau des conservateurs aussi, il y a beaucoup de cadres, de hauts cadres des républicains, qui disent qu'ils ne peuvent pas soutenir Trump. Mark Pence, et puis le général Kelly, etc. Ça fait que, cette fois-ci-là, les sondages-là ne nous situent pas bien. Quand vous voyez un leader d'opinion comme ça qui bascule, c'est avec tout le monde. Donc voilà, donc c'est ça qui a fait que c'est une élection un peu difficile à cerner au niveau des sondages.
Nous allons finir maintenant, hein, M. Palé-Dimaté. Quel est votre message à l'endroit des Ivoiriens et des Africains à l'orée de ces élections aux États-Unis.
Merci. Ce que je peux dire, je dis que l'Afrique gagnerait à s'imprégner des élections américaines. Comprendre les élections américaines, à la limite même suivre les élections américaines, s'adapter aux élections américaines. Parce qu'une telle élection où il y a 50 États, et jusqu'à présent, on n'a pas entendu parler, je parle terre à terre, d'un car qui a convoyé des gens qui sont tombés, de quelqu'un qui a été poignardé, et on n'a pas tiré sur quelqu'un.
Il y a Trump qui a échappé à des tirs, hein, quelquefois.
Non, ces tirs-là, il faut dire que c'est vrai, c'est dangereux, mais ce n'est pas comme si en Afrique, où on tire sur des gens, on tue tout le monde. Quand Trump a échappé, mais on n'a pas tué quelqu'un là-bas. Si c'était en Afrique ici, on allait arrêter beaucoup de gens, même des innocents. Ouais, donc, on doit s'inspirer de la politique américaine, surtout au plan démocratique. Mais ici, quand on pense qu'on avance, on recule. La démocratie en Afrique avance en dents de scie. Elle est étranglée, ça et là, par le tribalisme, le clanisme, le favoritisme, etc. Et il y a des régimes qu'on pensait être des régimes démocratiques qui sont devenus, du coup, des régimes totalitaires Alors donc, ce que je peux dire à toute l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, etc., que démocratie et développement vont de pair. Donc je pense qu'il faudra qu'on arrive à faire un discernement des choses, à savoir que quand on est en élection, nous sommes des adversaires des circonstances, mais que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit l'Afrique, un peu partout, doit rester. Nous avons beaucoup de problèmes en Afrique, nous devons nous inspirer des débats contradictoires qu'on voit un peu partout aux États-Unis, sans qu'il y ait mordant.
Merci donc à vous, M. Palais-Dimaté.
Merci beaucoup, Junior.
Cette entrevue a été menée par Junior Cardin, qui recevait Palais-Dimaté, expert en relations internationales et spécialiste de la politique étrangère américaine. Il nous livrait son analyse sur les défis et perspectives des élections américaines.